qu'il y a une grande diversité d'approches concernant cette question et que je vais me centrer sur celle que je défends, qu'on peut appeler une approche institutionnaliste. Donc c'est celle-là dont je vais me faire le porteur. Cette approche, je vais traiter trois points. D'abord, le rapport entre monnaie et valeur, dans un premier temps. Deuxièmement, la question justement de la liquidité, de la monnaie et du lien social. Et enfin, la question du rapport entre monnaie et, disons, valeur et politique. Donc l'approche institutionnaliste se caractérise par le fait qu'elle identifie monnaie et valeur. Autrement dit, selon cette approche, la monnaie n'est pas un masque qu'il faudrait écarter pour accéder à la réalité de la valeur. Elle n'est pas, comme le dit Schumpeter, un voile qui doit être ôté lorsqu'on veut voir le visage qu'il recouvre. L'emprise de la valeur économique, la monnaie, est ce par quoi, la valeur économique accède au monde et se fait connaître. L'emprise de la valeur économique sur les acteurs n'a pas d'autre expression que le désir pour la monnaie. Autrement dit, dans ce cadre institutionnaliste, le désir pour la monnaie est le principe même qui est au fondement de l'économie marchande. Notons que cette approche n'a rien d'évident puisqu'elle est en rupture avec la conception qui domine l'économie depuis Adam Smith. C'est en effet une toute autre stratégie qu'ont suivi les économistes depuis cette époque. Il s'agit pour eux justement de penser une valeur économique indépendante de la monnaie, antérieure à celle-ci, dont il faudrait chercher l'origine dans certaines propriétés que possèdent les biens eux-mêmes, à savoir pour les classiques le travail ou pour les néoclassiques l'utilité. C'est ce que j'appelle dans mon jargon l'hypothèse substantialiste, par quoi je veux dire que c'est une certaine substance sociale, le travail ou l'utilité, qui, dans cette approche, confère de la valeur. Dans l'approche institutionnaliste, la monnaie en soi est une force d'enrôlement des acteurs et des biens de par l'attraction qu'elle exerce. Or, l'institutionnaliste ne cherche pas à penser cette puissance d'attraction de la monnaie dans la continuité d'autres besoins humains qui lui en fourniraient l'intelligibilité, comme par exemple le désir pour les biens utiles. L'institutionnaliste se refuse à faire de la monnaie un moyen au service d'autres valeurs qui lui seraient extérieures, comme l'utilité ou le travail. Ce qui l'intéresse plutôt, c'est précisément que la monnaie, par elle-même, marque une rupture. Dans ce cadre théorique, le désir de monnaie doit être dit sui generis. Il est d'une nature propre, au sens où il invente un nouveau monde moral en rupture avec les autres sphères de valeurs. Il est donc exclu de le ramener à d'autres propriétés. Deuxième point, mais quelle est donc cette nature spécifique propre à la monnaie, sui generis, comme je l'indiquais. Ce monde moral dont je parle trouve ses fondements dans une nouvelle manière de produire, à savoir le travail divisé, la fameuse division du travail. En effet, lorsque la production des biens se trouve aux mains d'une multitude de producteurs séparés et indépendants, prenant leurs décisions de manière autonome, se pose immédiatement la question de la cohérence de leurs choix. Question évidemment essentielle pour la théorie économique. Or, dans un monde dominé par la séparation des activités de production, la survie d'un producteur dépend de son aptitude à avoir accès aux biens que les autres produisent et dont ils sont les propriétaires. La puissance d'exister de chaque producteur se trouve directement indexée sur sa capacité à obtenir les biens d'autrui. Ce qui, dans une économie régie par l'échange volontaire, suppose de posséder un bien que les autres soient prêts à accepter en échange. J'appelle justement liquidité, cette propriété générique, d'être acceptée par le plus grand nombre. Ce qu'il faut souligner, c'est que la liquidité ne renvoie pas à une propriété intrinsèque de certains biens. Dans une économie développée, faite de préférences individuelles multiples et diverses, il n'existe pas de bien unanimement désiré. Il n'existe pas, autrement dit, de bien qui serait par nature liquide. Aussi, l'émergence d'un bien liquide procède-t-elle d'une logique toute différente, d'une logique sociale d'adhésion de chacun à une certaine définition de la liquidité, parce que les autres également la font leur. C'est cette logique que je qualifie souvent de mimétique ou d'autoréférentielle, et c'est elle qui donne naissance à la monnaie. Ce par quoi donc la monnaie s'impose comme étant d'une nature collective, produite par cette logique d'adhésion collective à la définition d'un certain bien comme étant le bien liquide. Cette conception de la monnaie tranche avec l'approche traditionnelle. L'émergence monétaire est analysée dans ce cadre comme étant le résultat d'un processus en quelque sorte d'auto-organisation par lequel l'ensemble des producteurs, originellement séparés à cause de la division du travail, donne naissance à un corps collectif, la communauté marchande, en se dotant d'une définition unanimement reconnue de la liquidité et de la valeur, à savoir une certaine monnaie. Le concept adéquat pour penser cette singulière émergence est celui d'auto-transcendance ou encore de bootstrap. En effet, le groupe marchand, ces producteurs échangistes séparés, par le fait qu'il réussit à s'unir autour d'une même définition de la valeur, la monnaie, échappe à ce qu'on peut appeler l'état de nature et produit l'économie marchande. Grâce à la monnaie, chacun de ses membres accède à une puissance d'action supérieure qui améliore sensiblement ses conditions d'existence. Ici, en fait, ce qui s'impose, me semble-t-il, c'est le rapprochement de la genèse de la monnaie avec la genèse de l'État. On y voit de même un ensemble d'individus originellement isolés construire par leur association un corps collectif et accéder, ce faisant, à un horizon d'action plus vaste et à une vie plus humaine. On reconnaît dans cette puissance qui résulte de la composition des désirs de liquidité, tous focalisés sur un même objet, ce qu'on a nommé au départ le pouvoir de l'argent. Par l'action qu'ils exercent les uns sur les autres, les producteurs réunis se transforment mutuellement en donnant naissance à un sentiment commun doté d'une énergie particulière de par l'unisson dont il est le produit, puisque chacun se focalise sur un même bien qui est déterminé comme étant le bien monétaire. Telle est la nature du pouvoir de l'argent. La puissance d'influence de la monnaie trouve son origine dans l'investissement passionnel collectif dont elle est l'objet, ce qu'on peut appeler aussi confiance. Et donc on voit ici bien cette nature sociale qu'on rappelait en introduction. Il se déduit de cette réflexion une conception renouvelée des économies marchandes. Et d'abord le fait que le bien-être des acteurs, la quête d'utilité, n'est en rien la finalité primordiale et première de l'activité marchande. Dans ce cadre théorique, ce qui fait se mouvoir les producteurs, c'est la monnaie elle-même qu'ils cherchent à acquérir, de telle sorte que l'économie de marché est d'abord et avant tout une crématistique. Nous sommes face à ce qu'il faut nommer un ordre autoréférentiel, par le fait qu'elle se donne à elle-même sa propre valeur à travers l'émission et l'émergence de la monnaie. Il est clair que cet ordre, pour perdurer, doit satisfaire les besoins des êtres humains. Mais en son cœur, c'est l'enrichissement monétaire qui le meut. Notre appétit sans cesse renouvelé et même augmenté pour les marchandises ne renvoie que très imparfaitement à des besoins réels. Il faut plutôt y voir le résultat d'un processus historique de formatage des esprits et des corps initié par les producteurs via différentes techniques aux fins d'accroître les ventes et les profits monétaires. Il serait imprudent d'y voir le chemin d'un authentique mieux-être. En conclusion, la monnaie est bien un lien social fondé sur l'adhésion collective à une même définition de la valeur. Il donne naissance à un groupe unifié. Dans ce cadre, la valeur, premier point, donc c'est bien un lien social. Le deuxième point qui me paraît important dans ce cadre institutionnel, c'est que la valeur économique se comprend à l'instar des autres valeurs. Il n'y a pas de rupture entre la valeur économique et les autres valeurs. Comme les autres valeurs, sa puissance provient du fait qu'elle est le résultat d'un investissement collectif, d'une représentation collective, d'une confiance collective en elle, et c'est ça qui en crée le pouvoir d'attraction. Il n'y a rien de spécifique à cette valeur économique par rapport aux autres valeurs. Troisième point, on voit qu'elle a une nature, on pourrait dire, proto-politique, la monnaie, parce que d'abord, si on appelle politique, ce qui a affaire au pouvoir du groupe, à la manière de gérer le pouvoir d'un groupe, alors la monnaie concentre est un pouvoir collectif et le pouvoir du groupe. Et donc la question de son maniement, de sa captation, de sa transformation, ce qu'on appelle traditionnellement la politique monétaire, nous montre bien ici à quel point il y a une proximité extrêmement forte entre monnaie et politique. Enfin, dernier point, qu'est-ce qu'une crise dans ce cadre théorique ? Une crise, c'est quand les acteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une même définition de la valeur, et donc qu'il y a un conflit entre les acteurs, c'est ce qui est dit, ou entre différents nations ou groupes, sur la manière dont la valeur est définie. Autrement dit, il y a crise lorsque cette unité qui a été construite au sein d'une pour une certaine représentation de la monnaie et de la valeur rentre en crise parce que différents intérêts s'opposent quant à la définition de cette valeur.